France Culture. La curiosité sous toutes ses coutures. 17h-17h30, un mercredi sur deux, et le dimanche à 11h, sur les bonnes ondes de Radio Campus Angers.
Bonjour à tous et bienvenue dans Franche Culture, 30 minutes de rencontres et de découvertes en Anjou. Avec moi aujourd'hui pour animer cette émission, Marie et Marie-Jo, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Boum Boum, c'est le bruit du cœur qui bat et aujourd'hui il bat pour la musique baroque. Clément Debieuvre, directeur artistique de l'association 440, présente de Si doux soupirs une nouvelle saison musicale à Angers. Et puis, que lire ? Une joute verbale et passionnée autour de deux romans de la rentrée littéraire 2026, Anne Bourlion de la librairie La Cohue à Angers, et puis Marie-Josée Dean, critique littéraire du blog Le Banquet des mots et son Insta Fumée de lecture. Et puis tout de suite, le loup est de retour, ce n'est plus une hypothèse, c'est une certitude. Marie-Jo, vous avez rencontré Pierre-Louis Augereau pour parler de son livre intitulé Le loup en Anjou. Alors, oubliez le petit chaperon rouge et les trois petits cochons, le loup en Anjou est de retour et ce n'est pas une fable. On commence tout de suite avec vous Marie-Jo, c'est parti pour 30 minutes ensemble.
Franche Culture. La curiosité sous toutes ses coutures.
Bonjour Pierre-Louis Augereau.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation pour présenter votre livre « Le loup en Anjou », publié fin 2025 aux éditions La Geste. Il fait 180 pages et je l'ai dévoré, c'est le cas de le dire, tout en m'attardant sur les 79 illustrations que vous y insérez. C'est aussi un bel objet, avec une couverture en gros carton rouge pétant dont le format tient dans la paume de la main. Pierre-Louis Augereau, vous avez été pendant 40 ans journaliste au Courrier de l'Ouest. C'est votre septième livre publié, et toujours en 2025, et sorti, Anjou insolite et secret. Mais avant, vous avez écrit Les mystères des pays d'Anjou, Angers mystérieux, pour n'en citer que trois, ce qui fait de vous aussi un historien amateur. Le loup occupe une place considérable dans l'imaginaire européen, dans les représentations, dans les superstitions et dans le monde des symboles. J'ai entendu Michel Pastoureau révéler que le loup se place dans le trio de tête des animaux qui comptent, avec l'ours et le corbeau. Marie, si je vous dis le loup, vous pensez à quoi tout de suite ?
À loup-garou ?
Bénédicte.
Moi, je pense à la place Giffard-Langevin où il y a ces sculptures, ces trois sculptures de loups noirs.
Dominique.
Moi, je pense au loup d'Angers. C'est l'équipe de tennis de table et leur lieu d'entraînement, vous ne le croirez peut-être pas, c'est rue de l'Écriture dans le quartier Montplaisir.
Ah ah. Et vous, Cécile ?
Ah ben moi, je pense à la pub Intermarché. On a mis le loup et ça bat des records.
Eh oui, c'est l'actualité. Vous, Pierre-Louis Augereau, pourquoi êtes-vous devenu, je vous cite, un mordu, pour ne pas dire un enragé, des vieilles histoires de loups en Anjou ?
Pour le loup, je ne sais pas trop. En fait, je pense que ça remonte à l'enfance, à la petite enfance. C'est les histoires qu'on raconte aux enfants, la chèvre de Monsieur Seguin, le petit chaperon rouge, et les aventures de Sylvain et Sylvette aussi, que j'ai beaucoup lu. Et bah pour l'Anjou, c'est parce que j'y vis depuis ma naissance et que mes ancêtres y ont vécu pendant des siècles.
Et vous êtes tellement passionné que vous en devenez une encyclopédie vivante sur le sujet, pour le plus grand plaisir du lecteur. Vous remontez jusqu'au paléolithique, jusqu'à nos jours. Où avez-vous glané vos sources ?
Partout, partout où j'ai pu. Dans les livres, bien sûr, hein, on s'appuie toujours sur le travail de ses prédécesseurs. Et puis beaucoup sur le terrain aussi, parce que je suis journaliste de métier, de formation. Et donc j'aime bien aller voir sur place. Donc je suis, par exemple, vous parlez du paléolithique, je suis allé à Rocampaille, à Chalonne, où il n'y a absolument rien à voir.
Mais
c'était intéressant de voir un petit peu à quoi ça pouvait ressembler aujourd'hui.
Oui, j'ai noté aussi que vous avez fouillé dans les registres paroissiaux, à la médiathèque, dans les eaux.
Alors les registres paroissiaux, il ne faut pas croire que j'ai passé des heures et des heures, parce que le travail a déjà été effectué, notamment par les généalogistes.
D'accord.
Donc je me suis appuyé sur leurs travaux.
J'ai lu votre ouvrage comme un conte. Quand les loups dévoraient les enfants est le premier chapitre où vous évoquez le petit chaperon rouge. Rappelez-nous les deux versions du petit chaperon rouge.
Alors, la version de Perrault, c'est très simple, c'est très court et c'est très violent. À la fin, c'est deux pages, hein, et à la fin, le petit chaperon rouge est dévoré par le loup, point final. Et ensuite, les frères Grimm, au 19e, ils apportent le personnage du chasseur qui donc découpe le ventre du loup et libère la petite fille et sa grand-mère. Et ça montre aussi, enfin on le voit bien, disons que ces histoires de loups qu'on raconte aux enfants se sont édulcorées au fil des ans. Et je trouve très intéressant ce que vous disiez sur la pub Intermarché, parce qu'aujourd'hui, on a un loup végétarien qui arrête de manger de la viande pour se faire des potes à Noël. C'est quand même quelque chose.
C'est vrai, c'est vrai. Et alors, j'ai voulu savoir si une petite fille de 7 ans en 2025 connaissait le conte du petit chaperon rouge. Et effectivement, elle m'a raconté la version des frères Grimm, à savoir que l'on ouvre le ventre du loup et l'enfant est sorti. Alors, racontez-nous l'histoire du loup enragé en 1714 à Angers.
Alors, cette histoire, elle est assez bien documentée, en fait, hein, même si ça remonte à 1714. Ça date du 3 juin 1714. Un loup enragé arrive dans les faubourgs d'Angers. Alors, Angers était à l'époque une ville entourée de remparts, donc il ne rentre pas dans la ville, mais il reste dans les faubourgs, où il y a quand même du monde, et il attaque pas mal de gens. On pense qu'il est venu par la grande forêt de Verrières. Alors, Verrières, c'est un nom qu'on avait oublié, qui est revenu avec les communes nouvelles, puisque Verrières, en Anjou, a pris le nom de la forêt. Et Verrières, c'est Saint-Sylvain, donc Sylvain, on retrouve le Sylvestre, enfin la forêt, et Pelouaille, c'est l'endroit où on pelait les ouailles, c'est-à-dire où l'on tondait les moutons, et je pense que les loups était pas loin. Donc le loup enragé, il mord plus de 60 personnes d'après un témoignage écrit, ça va jusqu'à 140 d'un autre témoignage, on sait pas trop en fait, on va dire quand même plusieurs dizaines de personnes en quelques heures, et il est tué le lendemain matin par un valet de ferme qui allait bosser dans les champs et qui avait une tranche, c'est-à-dire un outil de jardinage. Très courageusement, il tue le loup. Mais à l'époque, il y a d'autres loups enragés qui sévissent dans la forêt autour, dans les forêts, et on assiste à une vraie psychose collective, en fait, à Angers, et donc à la mise en place de grandes battues pour aller tuer les loups, et on met en place des primes aussi pour éradiquer ce fléau.
En effet, avant la découverte du vaccin contre la rage par Louis Pasteur en 1885, on mourait d'une morsure de loup ou de chien enragé. Quels sont les symptômes de la rage?
Alors moi je suis ni historien ni médecin, mais d'après ce que j'ai lu, c'était pas beau à voir. Troubles du système nerveux, un rythme cardiaque anormal, convulsion, hallucination, hypersalivation, ce qui explique l'écume qui avait à la commissure des lèvres. Et les malades ont aussi une peur panique de l'eau. C'est pour ça qu'on appelle ça aussi l'hydrophobie.
Tout
et puis, il y avait aussi les douleurs dues aux morsures, forcément. Et puis, vous saviez que vous alliez mourir les jours ou les semaines qui allaient venir. Donc, psychologiquement, ça devait être très compliqué à vivre. Oui.
Et quelles étaient les tentatives de remède contre la rage, même si, au XVe siècle déjà, Ambroise Paré, que vous rappelez être ce roi des chirurgiens et chirurgien des rois, et dont il a été question récemment à France Culture, est crie, ceux qui sont tombés en hydrophobie, vous venez d'en parler, jamais ne guérissent. Mais quels ont été les remèdes qu'ils ont tentés?
Oui, parce qu'en fait, pour faire simple, on pensait qu'on pouvait être guéri parce que des fois, des gens croyaient être malades alors qu'ils ne l'étaient pas. Mais donc, il y avait toutes sortes de remèdes. Il y avait des herbes médicinales, il y avait aussi des superstitions. Enfin, on faisait un petit peu tout ce qu'on pouvait. Et puis alors, on emmenait aussi les enragés à la mer. Ils étaient hydrophobes, donc on les balançait à l'eau.
Et oui. C'était un mal assez... contre un mal.
Voilà,
oui,
peut-être. On pensait que le remède était radical, quoi. Et il y avait des saignées également. Enfin, c'était assez habituel à l'époque.
Alors, vous parlez de remède radical, mais moi, j'en ai lu un dans votre livre qui consistait à abréger les souffrances du malade en lui donnant la mort par étouffement.
Oui.
Le problème de l'euthanasie ne se posait pas à l'époque.
C'était violent et il fallait agir rapidement. Et souvent, c'était des malades qui demandaient qu'on les achève parce que c'était vraiment terrible.
Quand est-ce qu'il a disparu de nos campagnes en Maine-et-Loire, le loup ?
Fin 19e. Alors, en 1855, je n'ai pas beaucoup de chiffres à vous donner, mais celui-là peut être intéressant. On a tué 18 loups, louves et louveteaux, dans le Maine-et-Loire, 1855. Donc il était encore très présent. Mais il a disparu durant le dernier quart du 19e, enfin on va dire après la guerre de 1870. Et bah, je raconte notamment comment on tuait ces loups en faisant des chasses à cour, entre autres. Mais alors, il y avait du piégeage, il y avait plein de choses en fait.
Moi j'ai lu votre livre et page 89, vous dites « Le dernier loup a été tué en Anjou en 1882 ».
Oui, alors c'est... Ça doit être tiré, ça, du livre sur les mammifères en Anjou, si je me souviens bien. Il y a des dates qui... Enfin, on ne sait pas trop,
on
en
a
fait.
Une idée.
Mais en gros, c'est... Oui. C'est... Alors, 1882, c'est l'année au cours de laquelle l'État décide d'augmenter considérablement les primes.
Ah oui. Ah oui. Avec
donc,
les oreilles.
Bah, notamment, oui.
Alors, en Anjou, il y a aussi des traces du loup dans la pierre, les vitraux, les musées... Quelle trouvaille vous a le plus ébloui?
Alors, ébloui, c'est peut-être un grand mot, mais j'ai...
Émerveillé.
Oui, j'ai été intrigué, on va dire, par la patte de loup qu'on voit sur le dallage de l'église à Varennes, qui s'appelait Varennes sous Montsoreau, où il y avait eu ce qu'on appelait la bête de Benet ou la bête de Touraine qui avait sévi dans les années 1690. Alors, on n'est pas sûr que ça soit une patte de loup, en fait. Hein. Ça doit être une patte de
vous
chien.
Vous en mettez l'illustration dans
oui,
le
oui,
livre.
Oui. Alors, j'ai du mal à la trouver, mais...
Elle est très belle.
Oui. Et puis, bah, j'aime beaucoup aussi les sculptures de la place Giffard-Langevin, qui doivent être au nombre de 4. Je crois qu'il y a 4 loups, il n'y en a pas 3.
C'est exact, il y en a 4.
Et quand est-ce qu'il est réapparu ?
Eh bien, ça fait un an. Ça fait tout juste un an, puisque le piège photographique qui a été déclenché à la Séguinière, c'était donc dans la nuit du 7 au 8 décembre 2024, et ça a été officialisé par l'OFB, l'Office français de la biodiversité, quelques semaines plus tard, enfin début janvier. Et depuis, il est là, il semblerait qu'il soit du côté de Contigné, peut-être.
Alors,
en ce moment.
Je l'ai lu là, il y a quelques jours. Et c'est à 30 km de chez moi. Alors, on a déjà les sangliers qui font beaucoup de dégâts, mais alors si les loups s'y mettent...
Et oui, moi j'ai une question, est-ce qu'il y a des moutons qui disparaissent du coup ?
Il y a eu quelques attaques sur des moutons, oui. Mais alors, c'est toujours compliqué parce que, en fait, l'OFB veut être sûr et certain. Donc il veut de l'ADN, il veut de la photo, il veut des choses... Et on ne sait pas parfois si c'est un loup ou un chien-loup ou un animal canidé, on va dire, qui n'est pas forcément du loup à 100%. Quoi.
Alors, j'ai plus que 2 questions à vous poser. Où voir des loups en Anjou aujourd'hui, morts ou vivants ?
Alors, morts, naturalisés, il y en a au muséum. Je suis allé au muséum, très gentiment, ils les ont sortis des réserves, ce qui n'était pas très simple parce qu'ils ne sont pas présentés tout le temps. Donc, il y en a 2, dont un qui a été tué en 1855 au cours d'une chasse à cour qui avait démarré dans la forêt de Brissac. Et puis, si vous voulez voir des loups vivants, vous allez au bioparc de Douai-la-Fontaine. Ce n'est pas des loups d'Europe, c'est des loups à crinière d'Amérique du Sud. Et puis, au zoo de la Boissière du Doré, qui est à cheval sur le Maine-et-Loire et la Loire-Atlantique, là, il y a une meute de loups du Canada et de l'Alaska. Et au Natural Park de Saint-Laurent-des-Hôtels, qui est un peu moins connu, ce sont des chiens-loups qui sont présentés.
D'accord. Alors, je vous remercie, Pierre-Louis Augereau, pour vos éclairages. Où peut-on se procurer votre ouvrage, Le Loup en Anjou ?
Eh bien, comme on dit, dans toutes les bonnes librairies. Vous pouvez le commander aussi sur Internet, mais moi, je préfère quand même aller en librairie. C'est toujours plus intéressant de rencontrer les libraires.
Oui, c'est vrai. Merci beaucoup.
Bien, merci à vous.
Alors, on fait une pause musicale avec du baroque, la voix de Marc Moyon dans Campra.
Que vois-je ? Quel objet ? Tout mon raisonnement pourra-t-il me défendre ?
que son œil est charmant, je ne dois la voir ni l'entendre. Je forme un projet glorieux, mais à l'abandonner, tu pourrais me contraindre.
Écoute, maman.
Non.
Regarde.
Laisse-moi.
Autrefois, je t'ai vue plus soumise à ma loi.
Tandis que je t'aimais, mille rigueurs cruelles en ont été le fruit. Tandis que je t'aimais, tu me rappelles, c'est ainsi que souvent les peines méprisent qui les aiment.
Alors on reste dans le baroque maintenant avec Marie et Clément Debieuvre pour sa nouvelle saison musicale à Angers.
Franche culture, la curiosité sous toutes ses coutures.
Clément, vous êtes installé en Anjou, vous chantez partout dans le monde et on va enfin pouvoir profiter de vos talents en Anjou. Parlez-nous du 6 février prochain et de Un si doux soupir.
Alors le 6 février prochain, on aura la chance d'écouter le tout premier concert de la saison musicale inclusive baroque d'Angers, Boum Boum Baroque. Et donc de si doux soupir, ça va être un récital assez beau de musique baroque française et italienne, avec Marc Moyon, qui est un chanteur très reconnu dans le monde de la musique baroque, qui chante notamment à l'Opéra de Paris, et voilà, qui a fait aussi beaucoup de projets avec les Arts Florissants. Il sera accompagné de sa sœur, Angélique Moyon, à la harpe, qui est aussi très reconnue dans la musique baroque française. Et nous aurons la chance aussi d'accueillir Mali Rajzavong, qui est danseuse et qui est élève au Conservatoire National de Danse Contemporaine d'Angers.
Alors, le baroque, c'est quoi ?
Le baroque, c'est
quoi ? Vous en parlez beaucoup, là. C'est harpe baroque, chant baroque. Le baroque, c'est quoi ?
Le baroque, c'est le style de Louis XIV, pour résumer.
C'est un bon résumé. Alors, ça va se dérouler où, ce premier concert, le 6 février, Clément ?
Le premier concert va se dérouler au Champ du Monde du musée Jean Lurça, à Angers.
Une très belle salle. Vous avez choisi pourquoi ? Parce que c'est beau ou parce que...
Alors, on l'a choisi parce que on a très envie d'avoir de la mixité. Alors, c'est très large comme mot. La mixité, c'est pour nous la démocratisation d'une musique qui est
classique,
peu
finalement.
Connue, qui est classique, oui, mais qui est aussi très élitiste, si je puis dire. Et donc, on a besoin d'endroits comme le musée Jean Lurça pour montrer qu'on peut faire des choses nouvelles avec de l'ancien, comme ce qui se passe du coup au musée avec les tapisseries de Jean Lurça, qui sont du XXe siècle, dans un lieu qui est beaucoup plus ancien.
Alors, le inclusif, mixité, c'est l'introduction de la danse. Alors c'est aussi le lieu, donc avec l'art contemporain de Jean Lurça, mais c'est aussi la danse.
Tout à fait. Alors oui, alors c'est même encore plus large que ça. C'est évidemment la danse, puisque Mali, elle est en formation.
Elle est étudiante au CNDC.
Oui, tout à fait. Elle est étudiante au CNDC et donc elle va nous apporter vraiment quelque chose de totalement nouveau, si je puis dire. Et puis ça sera vraiment de la création qu'elle va faire pour ce concert. Et autre inclusion, si je puis dire, c'est aussi au niveau de l'affiche, parce qu'on a fait appel au collectif Contrefort, qui est un collectif qui est issu des Beaux-Arts. Voilà, donc on a eu la chance d'avoir...
une multitude d'acteurs qui,
oui, exactement.
Qui interviennent.
Exactement.
Alors, Boum Boum Baroque, avec un point d'exclamation, un BBB, c'est le nom de cette saison musicale. Pourquoi ce nom et quelles sont les références ?
Référence au battement de cœur, Et qu'est-ce qui fait battre notre cœur? Ben, c'est des émotions, ce sont aussi... par exemple, quand on écoute de la musique, on va tous taper du pied, on va tous... Voilà, on est tous un peu unis par ce rythme. Et donc là, Boum Boum Baroque, pour nous, c'était un peu évident, parce que c'est vraiment... On fait battre notre cœur...
En rythme.
En rythme.
Ça va bouger.
Voilà, bon, on espère que ça va bouger. Après, la musique baroque, c'est pas non plus quelque chose qui bouge énormément, mais en tout cas, on a envie...
Il y a une énergie quand même dans le baroque.
Voilà.
Hein. Il y a une énergie dans
le baroque. Il y a une énergie et on a envie que tout le monde s'y sente bien et s'y retrouve, surtout.
Une saison musicale, c'est plusieurs dates. Hein. Donc, on a vu le 6 février, là, prochain, au musée Jean Lursin. Il ne faut pas hésiter à aller prendre ses places. Ensuite, on a une, deux, trois dates.
Alors, on a une deuxième date qui est sûre. Qui sera le 29 avril 2026. Ça sera avec Éléonore Pancrazi et moi-même, d'ailleurs. Voilà.
Clément Debieuvre, je le redis, chanteur ténor, chanteur lyrique ténor.
Tout à fait. Et nous serons en collaboration avec le Conservatoire d'Angers. Et donc, nous aurons la chance de faire ce concert-là à la chapelle du Conservatoire, qui a été désacralisée et qui est maintenant la salle de concert. C'est un endroit magnifique. Et donc, nous aurons la chance aussi d'être accompagnés de certains professeurs du Conservatoire, Marouane Mancard et puis Eleanor Lewis.
Donc là, il y a quand même, on voit bien, un attachement à des beaux lieux à Angers qui ne sont pas toujours connus, en tout cas pas connus. Enfin, si, le musée Jean Lursin, c'est connu, mais ils ne sont pas connus pour qu'il y ait du chant dedans. Alors, pour offrir cette belle saison musicale hein, de Boum Boum Baroque, il y a une association qui a été créée, qui est même en cours de création. Hein. J'ai vu que sur Hello Asso, on pouvait y participer tous. C'est 440 points d'exclamation. Quel est l'objet de l'association?
Alors, c'est une association, loi 1901, qui a pour objet de promouvoir la culture et un tout petit peu plus précisément la musique en général. Voilà, 440.
Il y a beaucoup de propositions musicales à Angers,
en fait.
Oui,
tout à fait.
Donc là, le nouveau, c'est que ce soit plutôt axé musique lyrique baroque.
Tout à fait. Alors, on n'a pas voulu... on a choisi ce nom. Pourquoi? Parce que 440, c'est une référence au la actuel. Alors, ça serait même 442, mais on va dire que 440, c'est plus générique, si je puis dire. Et donc, on voulait pas forcément prendre un nom qui soit connoté que baroque.
C'est la musique, 440.
Voilà, 440, c'est la musique et c'est la musique telle qu'on la joue à l'heure actuelle. Et pour nous, c'est hyper important d'avoir ce présent-là.
Oui, vous laissez la possibilité, dans l'inclusif, vous laissez la possibilité de faire appel à d'autres musiques, peut-être.
Oui, voilà.
Peut-être, peut-être. L'association est-elle ouverte à tous, puisqu'on est
évidemment.
Inclusif, participatif,
évidemment.
Mixité. Voilà, on
c'est
peut tous
qu'on
adhérer.
Cherche. Ouais. En fait, si on voit aussi le bureau de l'association, il n'y a aucun musicien dedans. Et c'est ça aussi la force de l'association, c'est que moi, j'apporte ma connaissance en tant qu'artiste lyrique professionnel, mais chacun aussi apporte des choses différentes, notamment pour construire ces concerts-là et dire qu'est-ce que j'aimerais entendre, moi, en tant que spectateur de musique baroque, en tant que spectateur aussi, et je n'écoute pas cette musique-là, qu'est-ce que, du coup, j'aimerais entendre en venant à un concert de musique. Et ça, pour moi, c'est génial, en fait. Parce que c'est juste de la création, et on est là, et c'est de l'émulation, et c'est des rencontres, et donc on essaie de tout faire en collaboration avec tous ces gens-là, tous les gens qu'on a essayé de réunir et qu'on va réunir pour créer quelque chose de nouveau.
Donc vous stimulez bien les Angevins. Merci Clément.
Merci beaucoup.
Alors, pour acheter vos places, c'est pas compliqué. Il faut taper sur votre moteur de recherche préféré Boum Boum Baroque et vous trouverez tous les renseignements pour ce nouveau cycle musical Boum Boum Baroque.
Franche culture. La curiosité sous toutes ses coutures.
On continue avec vous, Marie-Jo et Anne, de la librairie café-restaurant La Cohue à Angers. Et vous allez nous présenter vos coups de cœur ou pas de cette rentrée littéraire d'hiver. Elles ont choisi donc toutes les deux L'Enfant du Vent des Féroé d'Aurélien Gautry et Hors-Champ de Marie-Hélène Lafont. On commence alors avec un premier roman, celui d'Aurélien Gautry. En 1953, dans une île balayée par les vents, un vieux pêcheur sent que sa fin est proche. Mais il veut tenir quelques heures encore afin de s'éteindre pile à la même date que sa petite Anna, sa fille adorée, morte en 1903. Alors Anne, qui était Anna ?
Anna, c'est le personnage, je dirais vraiment, c'est le personnage qui va lier tout ce texte absolument merveilleux. Je tiens à le dire tout de suite, c'est un premier roman ultra maîtrisé, édition Notabilia, une grande réussite, une grande découverte pour moi. On est aux îles Féroé, un territoire qui est assez sauvage. On découvre un petit village et surtout, effectivement, ce personnage de Anna qui aura eu une vie très courte et qui pourtant va occuper beaucoup de personnes sur un long terme en plus, puisque on retrouve un dernier personnage qui, lui, est très récent et n'a pas connu Anna, mais va la découvrir. Alors Anna, elle est la fille de Jonas, elle est la fille de Olga, et elle est aussi la nièce de Eline. Ces trois personnages-là vont couver une courte vie. Et c'est ça qui est brillant, je trouve, dans ce texte-là.
Alors pour moi aussi, c'est un gros coup de cœur, et je dirais même un coup de foudre. Mais avant de dire pourquoi j'ai aimé ce livre, je voudrais souligner l'importance des libraires dans nos villes.
Merci.
Au début du mois, j'ai beaucoup consulté la presse pour choisir mes lectures. Aucun ne mentionnait L'enfant du vent des Féroé. En vue de cette émission, je rencontre Anne de la Cohue et direct, elle me conseille ce roman, car elle a de bons retours sur ce roman. Et je confirme, c'est de la poudre d'or. Vous avez parlé de l'héroïne, mais qui donc va mourir quelques mois après sa naissance. Mmh. C'est dit au début, hein, mmh. On ne trahit pas le livre. Et dans ce livre, moi, j'ai aimé, c'est une tragédie, puisque le couple va se déchirer. Et il se passe dans un décor de nature vertigineux, mais c'est aussi le style d'Aurélien Gautry que j'ai beaucoup aimé, parce qu'il a un procédé narratif original, à savoir, il fait parler l'intériorité des personnages et la nature. Le seuil, le vent, le bonnet, enfin, il donne la parole aux objets. C'est très original.
Oui, on est dans la tête des objets. C'est ça, effectivement, je suis tout à fait d'accord, qui fait l'originalité aussi du roman. Ça pourrait paraître assez bizarre, en fait, c'est vraiment naturel. Il raconte la façon dont a vécu Anna à travers un bonnet. C'est quelque chose qui n'arrive jamais dans un roman, qui pourrait être complètement absurde, en fait. Et lui, il en fait quelque chose d'assez poétique et d'assez onirique, et ça paraît vraiment très, très naturel. Alors moi, j'ai aimé aussi beaucoup ces personnages, notamment Jonas, je trouve que c'est une magnifique déclaration d'amour d'un père qui sait que sa fille va avoir une vie très courte, qu'elle est trop chétive, en fait. Dès la naissance, il le voit, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et en fait, ce père va dédier sa vie entière
à
cette jeune fille.
Je cite une phrase. « Dès l'instant où il avait senti le cœur d'Anna s'arrêter, le sien s'était figé pour ne plus fonctionner, sans émotion, sans vie. La vraie, c'était cette mort. Et la fausse mort, c'était sa mort physique, 50 ans plus tard. » C'est
parce qu'il est persuadé depuis le début du roman qu'il va mourir le même jour que sa fille.
Voilà.
50 ans plus tard.
Et moi, j'ai beaucoup aimé sa sœur à Jonas, Eline, qui est pleine d'amour. C'est magnifique. Mais il y a autre chose, Anne, dans ce roman. Des poèmes.
Oui.
Et moi, c'est ce que j'ai préféré.
C'est pas ce que j'ai préféré.
Oui.
Voilà, là on a un petit point de discorde,
oui.
Effectivement. J'ai aimé le lyrisme, mais je me suis plus attachée effectivement à la description des personnages et des objets, notamment, et de la ville, parce qu'on parle aussi de Gvef, le petit village.
Mais moi, en fait, j'ai eu une grosse surprise, parce qu'il y a deux choses que je n'aime pas dans les romans, c'est les rêves. et les poèmes. Alors, il y a un rêve dans ce roman-là, je l'ai sauté, comme je fais d'habitude. Mais, à ma grande surprise, les poèmes, je les ai lus et je les ai aimés, parce qu'ils révèlent des vérités sur notre condition humaine, qui... Vraiment, il dit que les forces naturelles, en fait, nous dominent et nous sommes éphémères, mais les forces naturelles demeurent et il en parle beaucoup.
Oui, et ça va aussi avec l'île et avec l'endroit où il a choisi, je trouve. Alors là, pour le coup, qui choisit les Féroé, et c'est là où ça se passe vraiment très très bien.
Oui, parce que...
L'ensemble convient effectivement avec l'endroit qu'il a choisi, la spiritualité qu'il met dans les légendes, en fait, hein, de ce territoire-là. Et effectivement, la poésie... Mais moi, j'ai toujours eu plus de mal, mais...
Alors, on va poursuivre après les îles Féroé. et on va parler, Anne et Marie-Jo, de votre second choix, le 11e roman de Marie-Hélène Lafon, avec comme thème récurrent le canton dont elle est originaire. Ouais. On y lit l'enfermement de Gilles dans la ferme familiale, l'échappée de Claire, sa sœur, en devenant professeure à Paris. Alors, est-ce que c'était un coup de cœur pour vous deux, Anne et Marie-Jo?
Oui.
Non.
Discorde.
Alors, parlez-nous de tout ça.
Alors, moi, je dis juste un mot, hein, avec Marie-Hélène Lafon, c'est le grand écart au niveau stylistique. Hein, le ton est sec, cassant, proche de l'oral, c'est pas lyrique du tout. Et puis, il n'y a aucune métaphore, ce qu'il y a beaucoup dans le livre précédent. Mais je reconnais qu'il y a de la justesse.
Alors, pour moi, elle est... on est en Santoire, le territoire favori de Marie-Hélène Lafon, dont elle est originaire. Et alors, je suis une grande fan de Marie-Hélène Lafon. Je trouve qu'elle dépeint ce qu'on appelle les gens de peu. Et le territoire de peu, des territoires un peu oubliés qu'elle défendra toujours et j'ai aimé cette fois-ci le fait qu'elle mette un tout petit peu plus d'elle, parce que pour être très honnête, sur le dernier roman qui s'appelait Les Sources, où déjà elle parlait de la ferme, de ses frères, de son frère et de sa sœur, et il y avait vraiment une toute petite partie qui parlait de Claire, qui était elle, parce que c'est son double littéraire, j'étais un peu frustrée. Et donc là, en lisant Hors-Champ, j'ai adoré qu'elle parle plus d'elle et de sa relation fraternelle. Au passage, on est sur deux textes qui parlent d'un rapport très fraternel entre donc Marie-Hélène Lafon, entre Gilles et Claire. Et dans le précédent roman, on a aussi, on n'a pas eu le temps de l'évoquer, mais un frère et une sœur qui sont liés d'un amour absolu. Alors traités de façon très différente, hein, on est d'accord, c'est vraiment deux histoires différentes. Mais Gilles et Claire, dans toute leur retenue de paysans, je trouve qu'elle passe un message avec des mots, pour moi, très adaptés, en fait, à ce qu'elle écrit, à ce qu'elle dépeint, au paysage. C'est un peu abrupt, ça peut être... La Santoire, c'est quand même un territoire parfois abrupt, et je trouve qu'elle, la façon dont elle l'écrit ne peut être que comme ça.
Oui, alors moi, j'ai moins aimé cette lecture parce qu'elle est d'une infinie tristesse, hein, parce que à un moment donné, il y a quand même la mère qui dit, je cite, « comme une giclée de pu, si Claire avait été un garçon, son frère ne serait pas né, on aurait arrêté les frais », a dit la mère. Mais moi, c'est pas pour cette raison que je... En fait, comme beaucoup de Français de ma génération, j'ai des racines paysannes. Et le Gilles du roman, j'en ai eu un dans ma famille. C'était mon oncle, il s'appelait Roland, célibataire, cultivateur, on disait cultivateur à l'époque, dans la ferme de ses parents, perdu dans la Meuse. J'y allais en vacances dans les années 60, et en lisant Hors-Champ, je me suis retrouvée fouettée de poing fait face à des scènes douloureuses, identiques à celles vécues par Gilles. Je voyais mon oncle. Et même le père, qui est un monstre dans le roman de Marie-Hélène Lafon, il commande tout, il décide tout. Eh ben moi, c'était ma grand-mère. Elle régentait la ferme. Et donc, ça m'a fait mal. C'était douloureux pour moi. Mais je n'aime pas trop le style de Marie-Hélène Lafon, alors que vous... Parce qu'elle fait parfois des répétitions. En fait, elle dit qu'elle travaille jusqu'à l'os. Ce sont ses propres termes. Et cela peut mener à une forme qui fait parfois mal. En l'occurrence, c'est le cas. Et moi, je recevais des coups de marteau. Ça cassait, voilà, ça, c'est personnel. Hein. Et je reconnais que je suis à contre-courant de toutes les critiques. Hein. Elle a une presse excellente. Et je lui reproche aussi un petit défaut. Elle a tendance à répéter beaucoup. Par exemple, dans ce roman-là, elle dit « un fils, un mâle, un couillu ». Elle aurait pu dire « c'est beau, magnifique, superbe ». Ça, ça m'agace un peu, ce surlignement. Et l'autre jour, je l'écoutais à la radio. Elle répétait la fin de ses phrases comme si on était, nous, auditeurs, au lycée du ZEP. Ça doit être une déformation professionnelle, où elle doit répéter. Elle répétait. Et ça, je supporte un petit peu moins.
Anne et Marie-Jo, on va devoir arrêter là. Merci à vous. Et donc, je redis le roman d'Aurélien Gautry, publié chez Notabilia. Le titre, vous allez me le redire.
L'enfant du vent des Féroé.
Merci. Et puis, Hors champ de Marie-Hélène Lafont, édité chez Buchet-Chastel. Mmh. Voilà. Merci pour cette émission. C'est la fin de ce Franche Culture. 30 minutes de culture tous azimuts en Anjou. Merci à Elliot pour la technique. Retrouvez-nous un mercredi sur deux en direct à 17h et le dimanche à 11h ou bien sûr en podcast. Et n'oubliez pas, la curiosité se partage sur les réseaux sans modération. Très belle semaine à tous.
Une émission à retrouver sur le www.radiocampusangers.com.